Alors, vous vous rappelez que dimanche passé, je vous ai parlé de l'encouragement. L'encouragement est nécessaire dans la vie. L'encouragement vient de Dieu, souvent. C'est celui-là qui dure, qui est le plus fort dans notre vie. Le reste, souvent, est éphémère. Alors, je vous rappelle que j'ai parlé de l'aveugle-né. L'aveugle-né a été guéri par Jésus. Jésus a pris de la salive et de la terre, et il a guéri les yeux de cet aveugle-né. Les prêtres et la mentalité de la région, c'était que c'était à cause des péchés de ses parents. Il était comme ça. Et Jésus l'a guéri, et tout. Franchement, Jésus ne s'est pas intéressé aux péchés des parents. Vous voyez? Et si les gens étaient honnêtes, ils liraient dans Ézéchiel que Dieu ne punit pas pour le péché, le fils pour le péché de ses pères, ou le père pour le péché du fils. Hein? Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui l'expriment. Bon, il y a eu la guérison du monsieur paralysé à la piscine de Bethesda, hein, piscine de Siloé. Ce monsieur qui voulait descendre dans l'eau quand il y avait des bouillons dans l'eau, pensant être guéri, et qui ne descendait jamais puisque personne ne l'y descendait. Donc un homme paralysé des jambes et rejeté, abandonné des autres, qui pourtant était là, bien visible pour aux yeux des autres, et que Jésus a guéri. Donc, le problème, c'est que Jésus a encouragé cet homme en lui montrant qu'il était important à ses yeux. Nous sommes donc importants aux yeux du Seigneur, et ça, il faut le savoir, quoi qu'il se soit passé dans nos vies. Hein? Pour la femme adultère, ça a été la même chose. La femme adultère était prise en flagrant délit. Ben bon, s'il fallait lapider tous les gens sur la terre qui ont été adultères, il ne reste pas grand monde sur la terre. Alors, pratiquement, Jésus n'a pas condamné cette femme adultère. Il a simplement dit aux autres, si vous n'avez pas péché, eh bien jetez-lui une pierre. Personne n'a jeté de pierre. Donc Jésus s'interpose entre l'homme et le jugement qu'on veut pratiquer sur lui. Mais ce qu'il y a, Jésus juge les actes. Et il dit, ne pêche plus. Jésus juge les actes. Donc nous sommes encouragés à ne pas pécher, mais nos péchés sont jugés. Nos actes sont jugés, nos comportements. Hein, si nous mentons, si nous profitons de l'argent des autres, si, etc., peu importe. Voilà, donc le péché ne plaît pas à Jésus. Mais ce qu'il y a, il donne sa chance à cette femme, tandis que les autres ne donnaient aucune chance. Bon, vous voyez bien que la Samaritaine a eu 5 maris, elle est au bord du puits, et Jésus ne fait pas un foin, ne fait pas un tas d'histoires, et il lui dit, si tu es vraiment, tu as soif, tu peux boire de l'eau que je te donnerai, donc le Saint-Esprit, et tu n'auras plus jamais soif. Donc sans doute cette femme était déséquilibrée, atteinte au profond d'elle-même, et cherchait l'amour, cherchait quelque chose qu'elle n'a jamais trouvé. Et pratiquement, Jésus est l'amour. Jésus est la présence même de l'amour sur terre. Et cette femme a compris que c'était vraiment le Messie, elle a été chercher les autres. Et les autres dans la localité samaritaine, les autres sont venus, ils ont dit, maintenant nous croyons, non pas à cause de tes paroles, mais à cause de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Donc vous voyez une population rejetée, une population dégradée aux yeux des autres, qui est encouragée par Jésus. Et Jésus avait pris le chemin des collines, qui est beaucoup plus fatigant que le chemin du Jourdain, ou de la plaine d'Ascalon. C'était volontairement qu'il passait par là. Donc Jésus n'a pas ménagé ses peines pour aller encourager un village, cette femme et tout un village. Alors, quand il y a une autre dame qui va verser du parfum sur la tête de Jésus, qui lui essuie les pieds avec ses cheveux, etc., cette femme est bien sûr critiquée par tout le monde, parce qu'on a dit qu'on aurait mieux fait de donner cet argent aux pauvres. Mais quand on regarde de près, c'est ceux qui prenaient l'argent dans la caisse qui faisaient ces critiques-là. Jésus a dit, on parlera d'elle à travers le monde entier. Et puis elle a fait ça pour ma sépulture. Alors, voilà que Jésus dit de cette femme quelque chose que personne n'aurait pensé à dire. Cette femme comprenait que Jésus allait mourir. Cette femme comprenait que Jésus avait besoin d'être honoré pour le sacrifice qu'il allait faire. Et donc, elle était exceptionnelle par rapport à tous les autres. Et donc, pratiquement devant le mépris des autres, Jésus a vu ce qu'était la foi de cette femme, a vu ce qui était exceptionnel, cette relation qu'elle avait avec Jésus, où elle voyait que Jésus allait au sacrifice, pour elle et pour les autres. Et il l'a honoré, et il l'honore encore aujourd'hui, parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Quand il y a le lavement des pieds, vous savez que les esclaves lavaient les pieds de leur maître, et que les ouvriers devaient laver leurs pieds en rentrant à la maison, et tout, et les mains, etc., le visage, et bien pratiquement, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Pourquoi ? Parce qu'on est habitué à ce que quelqu'un d'élevé, de grand, se fasse servir. Et celui qui est petit, ben, il sert tout le temps. Hein ? C'est son rôle. En fait, Jésus met à l'honneur les petits en leur lavant les pieds. Et pas artificiellement. Pas artificiellement. Puisqu'il a dit, heureux ceux qui ressemblent aux enfants, aux petits. Hein ? Et Jésus s'est fait l'esclave, s'est fait le serviteur pour bien montrer qu'il encourage tout le monde à donner de la dignité aux autres, à donner un regard positif aux autres. Quand Zachée, l'homme qui a triché, qui a accumulé de la richesse, qui a vraiment fait du mal aux autres, est détesté et qu'il monte dans un sycomore, vous voyez les épines là, qu'il y a sur cette tresse que Tanguy a faite, regardez les épines. Prenez les plus grandes et prenez un arbre où toutes les branches, il y en a comme ça partout. On me demande comment on peut arriver à grimper là-dedans. Eh bien, Zachée, pour voir Jésus, parce qu'il était petit, est arrivé à grimper là-dedans. Il fallait qu'il soit motivé. Je ne sais pas si je l'aurais fait, je vous le dis franchement. Alors, pratiquement, Zachée reçoit Jésus à la maison, parce que c'est Jésus qui a dit « je vais chez toi ». Parce que jamais personne ne disait à Zachée, sauf les tricheurs, comme lui, personne de bien ne disait « je vais aller chez Zachée ». Il était classé, avec tous les autres qui sont classés. Et donc, quand Jésus va chez lui et qu'il lui parle du royaume des cieux, qu'il lui parle du Père des cieux, Zachée rend à tous ceux qu'il a volé, 4 fois ce qu'il a volé. Et il donne tout le reste aux pauvres. Donc, il avait fait un sacré business. Hein. Et alors, je me dis que le Seigneur peut briser quelqu'un d'aussi épais, tordu, tortueux, parce que ça devait être un tordu. Donc, je dis qu'aujourd'hui, il y a des gens à ce point-là qui ont accumulé, qui ont thésaurisé, qui ont l'art de s'enrichir par leur vice, hein, et que Jésus peut visiter et changer. Ça, c'est important de le savoir. Donc, un riche en face de nous n'est pas à mépriser. On n'est pas du côté de Karl Marx à cause de ça. Et je vivais en communauté il y a longtemps avec des jeunes. Il y avait 8 ou 9 jeunes, des jeunes de 18 à 25 ans, et c'était à Aethe. Avant, c'était à Chantemelle, mais à Aethe, durant 2 ans et demi, le temps de faire la maison où habite Véronique et Vincent, après journée. Et pratiquement, le propriétaire était riche. Il venait de Verviers, parfois. Et les jeunes, à part un, le méprisaient. Les jeunes avec qui je vivais le méprisaient. À plusieurs reprises, j'ai fait des remarques, surtout une fille, originaire d'Étale, menait la barque pour le mépriser. Quand je regarde la vie de tous ces jeunes maintenant, eux tous sont des petits bourgeois et tous aiment leur bien et leur paraître. Et le problème, je le savais moi quand je les voyais, je les entendais. Parce qu'on critique ce qui nous dérange et qu'on ne règle pas, ce qu'on ne règle pas en nous-mêmes. La relation avec l'argent, ils ne l'avaient pas réglée, donc ils n'étaient pas en paix, donc il fallait critiquer pour se sentir bien. Et pratiquement, n'oubliez pas, un doigt pour critiquer l'autre, un vers Dieu, 3 vers soi. 3 vers soi-même. Alors, ce qu'il y a, ce que je leur ai dit, je ne veux pas, nous vivons en communauté, nous sommes chrétiens, enfin, il y en avait deux, trois au moins dans la bande, et nous ne pouvons pas faire ça. Donc, nous respectons cet homme, il vient chez nous, c'est à sa maison, on le respecte, on ne se moque pas de lui, etc. Ça n'a pas apparemment fait effet, mais peut-être qu'au bout de 20, 30, 40 ans, la personne a peut-être réfléchi, et à changer. Hein. C'est évidemment toujours possible de changer. Parfois, ça prend le temps parce qu'on résiste. On n'a pas compris, simplement. Il faut que d'autres leur disent, dans d'autres rencontres, une émission, une lecture, pour que ça s'ajoute, et tout d'un coup, que ça fasse tilt. Hein. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Le brigand à la croix, quand on regarde certains évangiles, et tous les deux brigands insultaient Jésus. Puis à un moment donné, on voit qu'il y en a un des deux dans Luc, il arrête d'insulter. Il change d'attitude et il dit à l'autre, mais il faut qu'on arrête là, tu vois bien, il ne mérite pas d'être ici, nous on reçoit ce qu'on a mérité. Et alors il demande à Jésus pour être pardonné de ses péchés et Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras dans mon paradis. Donc on ne voit pas que Jésus a... désespéré de ces hommes. Jamais. Et il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce que quand l'homme est sous la puissance du péché, c'est un lien très puissant, le péché. C'est une force. C'est pas possible pour l'homme de se dégager tout seul. Il faut une grâce immense. Et Jésus le sait. Donc, sachant cela, le pécheur est un captif. Il est un incapable, si vous voulez. Il n'a pas la capacité de se dégager des ronces, des épines dans lesquelles il est. Et donc, il faut une action, un miracle pour se sortir de ça. Il faut une grâce. Et Jésus le sait. Et quand il dit « Pardonne-leur, Seigneur », mais aussi, après, on voit dans Jean chapitre 17 qu'il demande la grâce pour le monde, continuellement. Sachant bien que Jésus cherche à sauver l'homme donc, et à l'encourager à aller vers le Père. Le centurion romain était un étranger, un occupant, qui sans doute, comme tous les autres centurions, qui étaient nombreux en Israël, parce qu'elle était considérée comme une région fort chaude, fort difficile par l'Empire romain, on savait qui était le petit charpentier de Nazareth. On savait. On l'avait classé sans doute dans les personnes non dérangeantes, les doux rêveurs. Mais d'autres étaient dangereux. Et parfois, on avait crucifié jusqu'à 2000 personnes au Golgotha, certains jours, ou quelques centaines. L'Empire romain était extrêmement sévère, autant que Staline, autant que Hitler. Hein. Ça marchait comme ça, pas autrement. Et donc, quand le centurion voit Jésus passer plusieurs fois, qu'il l'entend, qu'il a un rapport sur lui par ses collègues, qui sont responsables autre part, il sait que cet homme-là est bon, que cet homme-là est vrai, et qu'il cherche toujours à amener la paix et le bien. Et même si en réunion de responsables militaires, etc., des policiers, je dirais, romains, tout le monde en rigolait, se marrait sur ce doux rêveur, lui était touché dans son cœur. Et quand il a vu son meilleur serviteur, sans doute l'homme de confiance, à qui il pouvait dire quelque chose que ça ne soit pas dévoyé, dénaturé, à qui il pouvait confier une mission, qui serait faite honnêtement, il perdait quelqu'un de précieux. Et il y avait certainement une estime profonde pour cet homme. Il a pensé que Jésus pouvait guérir cet homme. Et lui se savait indigne. C'est ça qui est terrible, c'est que lui se savait indigne. Il voyait la hauteur à laquelle Jésus était. Et il envoie des Juifs pour aller trouver Jésus. Il voyait la hauteur où était Jésus. Et il voyait la hauteur où il était. Et quand le centurion dit « Je ne suis pas digne que tu viennes dans chez moi », c'est pas un vain mot. C'est un homme qui sûrement fait du mal, qui a dû, à cause de son métier, faire des mauvaises choses. Et il sait très bien que Jésus, pas du tout, n'est pas de ce bois-là. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une connexion. C'est que Jésus guérit son serviteur ne fait aucun obstacle. Cet homme, le centurion, est quelqu'un qui va progresser, qui va aller vers Dieu à cause de cet amour, de cette reconnaissance que Jésus lui accorde. L'exaucement de sa prière. Toujours, Jésus est amené à sauver les pécheurs, à les amener vers le Père des cieux, à ne plus les mettre sous le joug de la loi. Pourquoi est-ce qu'à l'époque de Jésus, il y a les 10 règles de Moïse et il y a 612 règles alentour? Parce que les responsables religieux d'Israël se sont bien rendus compte que les 10 commandements de Moïse n'étaient jamais obéis. Et pour que les 10 commandements soient respectés, obéis, on a mis des petits règlements alentour. Ça veut dire qu'ils ont mis une haie, ils ont fait pousser une haie d'épines, une haie alentour des 10 commandements, une haie de règlements pour protéger la loi. La loi protéger la loi. On arrive à ça maintenant progressivement ici en Belgique, en Europe. On a donné depuis mai 68 beaucoup de liberté, il y avait des principes, et on voit qu'à cause de cette liberté qu'on a prise, la loi, tout le monde triche. On faisait ce qu'on voulait sur la route, on faisait ce qu'on voulait dans les mœurs, on faisait ce qu'on voulait pour beaucoup de choses, avec la finance, les impôts et tout. Je travaille en or. Alors, on remet des lois, des règles, des papiers, on nous cerne de tous côtés, ça devient irrespirable. C'est ça la haie alentour de la loi. Pour arriver à cerner les gens pour qu'ils respectent la loi. Et qu'il y en ait un minimum, en tout cas, qui rentre dans les caisses de l'argent et qui ait un minimum de comportement social. Sinon, si on laisse faire, hein, vous savez, on fait des ronds-points. Pourquoi ? Parce que les stops, on ne les respectait plus. Hein. Pourtant, les stops, les ronds-points coûtent cher. Hein. Et c'est nous qui les payons dans nos impôts. Hein. Pas de problème. Celui qui se frotte les mains, c'est ce qu'on jettera. Hein. Bon, alors, pratiquement, parce qu'il va en falloir des ronds-points bientôt, hein. Il faudra bientôt, même dans les routes des champs, si ça continue. Alors, pratiquement, vous voyez, notre société a de plus en plus de règlements parce qu'il y a quelque chose au niveau du cœur de l'homme qui ne respecte pas la loi et qui se développe. Alors, pratiquement, il faut savoir que Jésus savait cela. Et quand il rencontre des gens qui sont en révolte contre les règles et qui doivent les appliquer, lui qui aime Dieu, qui aime l'homme, qui aime le bien, il dit, moi je vais appliquer la loi, je vais vivre de manière à leur montrer qu'on peut être dans la paix, dans la joie, dans la sainteté. Je vais leur montrer qu'on peut vivre dans la société comme elle l'est, qu'elle soit facile ou pas facile, qu'il y ait des occupants romains ou qu'il n'y en ait pas. Qu'on ait beaucoup à manger ou qu'on ait presque rien à manger. Qu'on ait beaucoup d'argent ou pas d'argent. Parce que le vrai problème, c'est le cœur. Le vrai problème, c'est là. C'est la façon dont je me comporte au niveau de mon cœur, de mon âme. Et Jésus dit, je suis venu pour guérir votre cœur, votre âme, et vous donner le Saint-Esprit pour que vous puissiez vivre libre, quelles que soient les circonstances politiques, économique, social. Donc, le rôle de Jésus est de nous affranchir du péché, des commandements et de la haie des commandements alentour, et de cet esprit rebelle contre les lois. Jésus veut nous affranchir de tout cela et nous donner la vraie liberté. Et la vraie liberté dans le Saint-Esprit, la vraie liberté, c'est la loi du cœur dans laquelle Jésus grave tous les jours écrit ce que je dois dire, ce que je dois faire, et ne pas dire et ne pas faire. Par amour de Dieu. Sur la croix, Jésus a pardonné. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est acquis. Ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas moi qui suis mort sur la croix. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas Serge ici. Ou Annette, c'est le Fils de Dieu. Il a le pouvoir de demander ce pardon et il l'a obtenu. Et le voile du temple s'est déchiré. Donc l'encouragement est total. Ce qu'on va faire, c'est essayer de comprendre que toujours, l'amour de Jésus nous encourage, toujours, l'amour est premier pour l'homme. Le sacrifice de Jésus est complet. Il a payé ma dette. Jésus est ressuscité, Il a le pouvoir de me secourir aujourd'hui, de me comprendre, de compatir à mes faiblesses et de me conduire vers le Père. Jésus accomplit l'Écriture, il accomplit la loi et il a la possibilité de me donner le Saint-Esprit, la grâce de vivre dans n'importe quelle société en ayant un cœur libre du péché. Maintenant, je regardais plus attentivement comment vivait Jésus. Ben, Jésus vit comme un homme vrai. Hein, à l'époque où il est, on va regarder dans Jean chapitre 4, hein, comme un homme vrai. C'est pas comme en disant, et ça ressemble à un homme vrai. Non, comme un homme vrai, il était l'homme vrai. Il était l'homme vrai. Parce que, où sont les hommes vrais sur la terre? Jean chapitre 4. Donc, vous avez ici le verset 23 et 24. L'heure vient, elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, pas besoin de temple, pas besoin d'un tas de pierres, pas besoin d'être riche et de mettre dans le tronc du temple. Pas besoin d'avoir des animaux et de les sacrifier. C'est l'état du cœur. C'est l'esprit. C'est tout ce jour-là. C'est là que je dois être dans la vérité. Et la vérité, ce n'est pas ma quantité d'argent que je donne dans le tronc au temple. Ce n'est pas la contribution que je mets pour construire le beau temple en marbre à Jérusalem. Ou une belle basilique, une cathédrale, ou un temple évangélique, ou une mosquée. C'est pas ça. C'est la construction de mon cœur par Dieu qui compte. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, c'est un homme de vérité. C'est un homme profond. Jésus est profond. Et aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un qui se dit chrétien, qui vit superficiellement, connaît-il l'homme profond qui est Jésus? Cet homme profond qui est Jésus, le Fils de Dieu, peut-il arriver à dire à ce chrétien quelque chose de profond et que ce chrétien l'apprécie et le met en pratique? Ou pourquoi ce chrétien ne prend pas les choses profondes de Jésus? Comment ça se passe? Ce n'est pas Jésus qui se tient en réserve et qui ne donne rien de profond. C'est nous qui ne voulons plus rien de profond et nous refusons la mission d'être en esprit et en vérité. Nous refusons la régénération. Nous refusons la purification de nos péchés. On peut avoir été chrétien un certain temps, zélé, et puis tout d'un coup, après, s'empâter, s'endurcir, se fermer. Et où est passé le chrétien? La mission de Jésus, toujours dans ma vie, est de continuellement me purifier et me sanctifier. Jésus n'est pas derrière le mur, Jésus n'est pas au-dessus de la dalle, Jésus doit être là. Ça, c'est la fonction, c'est le rôle et la volonté lui-même de Jésus. Et le chrétien doit être ce temple, cette maison pour Jésus. Prenons le chapitre 3, verset 20. Quand je suis chrétien, si j'aime bien mentir, ça fait quoi? Est-ce que j'ai souvent des rencontres avec Jésus? Si j'ai souvent des rencontres avec Jésus, j'ai honte de mentir. Et je vais peu à peu ne plus mentir. Si j'ai d'autres vices, c'est la même chose. Je vais avoir honte, je vais changer. Parce que Jésus est important pour moi et que son regard sur moi me touche. Je vais changer. Et que Jésus m'aime, il est patient, il m'aime, mais ne me laisse pas tranquille avec mon péché. Si je suis tranquille avec mon péché, c'est que je me suis arrangé pour construire un mur entre Jésus et moi. Il faut faire attention. Parce que si c'est un mur qui continue, qui s'épaissit, et qu'on renforce, ça s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est que Jésus ne peut plus me donner... L'Esprit Saint, il ne peut plus me donner la vérité, l'Esprit d'adoration. Et ça, Ça, c'est carrément le refus du salut. Ça peut arriver d'être un certain temps dans la désobéissance, mais quand on construit le mur et qu'on l'épaissit et qu'on continue à l'épaissir, alors là, ça devient du sérieux. Comme dit Pierre, le chien est retourné à son vomi, la truie à sa boue. Alors, chapitre 3, versets 20 à 21. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Si vous êtes chrétien et que vous avez fait le mal et que vous ne voulez pas le reconnaître, ou complice du mal, vous ne voulez pas le reconnaître, hein, et que vous vous arrangez pour que tout soit caché, eh bien, il y a quelque chose de grave. Vous n'allez pas vers le Christ. Vous vous éloignez de lui. Maintenant, si vous êtes la victime de quelqu'un qui a fait du mal, vous êtes la victime. Et cette personne ne veut pas accepter de reconnaître qu'elle a fait le mal. Vous êtes une victime? Oui, mais c'est Dieu qui jugera, c'est Dieu qui tranchera. Parce que tout sera dévoilé. Tout sera dévoilé. Vous voyez bien dans le verset 20 que même si l'homme a peur que ses œuvres soient dévoilées, Dieu les dévoilera. Vous voyez bien dans le chapitre 2 d'Hébreux que l'épée de Dieu, la parole, rentre dans la jointure des os et sépare l'âme et l'esprit. Elle montre. Donc Jésus a cette capacité de toujours nous amener à la vérité. Et sachez bien qu'il arrive dans des églises où des gens aiment vivre en vérité, dans des églises, et des autres n'aiment pas vivre en vérité. Pourtant, ils sont là, membres de l'église, ils sont dans l'église, ils chantent et prient comme les autres. Parce que la vérité est toujours pratique. Pour moi, elle n'est pas théorique, elle est toujours pratique. Elle touche le comportement avec lequel on vit et les pensées avec lesquelles on fonctionne. Alors, eh bien, si dans le même troupeau il y a des deux, il y a du blé livré, Jésus l'avait dit. Le Seigneur jugera avec ses anges. Mais ce qui compte, c'est que je veux donner du fruit, je veux être du blé et pas de livré. Ce qui compte, c'est ce que je choisis avec le Seigneur, de rester fidèle et obéissant. Mais si je regarde à gauche et à droite, je vais finir par devenir de livré aussi. Il faut regarder au Seigneur. Toujours au Seigneur qui est là. Au chapitre 2, verset 16. Chapitre 2, verset 16. Quand Jésus dit aux vendeurs de pigeons dans le temple, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, l'amour de Jésus, c'est que la maison de Dieu soit propre. Donc la maison de Dieu, c'est bien sûr le cœur de chaque chrétien. Et c'est l'ensemble des cœurs, des chrétiens, des esprits, c'est l'église, chaque église locale. Et Jésus a du zèle. Le mot en grec veut dire du feu, de l'ardeur. Jésus a du zèle pour son église. Mais ce qu'il y a, on voit dans Laodicée, Apocalypse chapitre 3, que à force que l'Église refuse le zèle de Jésus, son amour de la vérité, Jésus est derrière la porte et il dit, voici, je frappe à la porte. Si vous entendez ma voix et que vous ouvrez la porte, j'entrerai chez vous, je mangerai avec vous, vous mangerez avec moi. Donc, Jésus a du zèle, mais Jésus ne vient pas encore avec la puissance tel qu'il viendra un jour, il vient avec la patience, avec la délicatesse de Jésus de Nazareth. Mais le jour que le Père va l'envoyer, il va le faire venir sur le cheval blanc avec l'épée du combat. Et là, il ne toque pas à la porte, il ouvre la porte et il rentre et il démêle le vrai du faux. Et ça, c'est Jésus de Nazareth, c'est l'homme du vrai, de la vérité. Alors, Jésus, il a une deuxième caractéristique, c'est qu'il aime bien le vécu quotidien. C'est pas les grandes déclarations, le grand paraître, c'est le vécu quotidien. Et c'est proche des hommes. Proche des hommes, les amis. Regardons chapitre 13, verset 18. Jean, chapitre 13, verset 18. Proche des hommes, dans le vécu. Je me suis rendu compte en allant au soir mettre un monsieur dans son lit, c'est dur, hein, c'est dur, finalement c'est dur et en même temps c'est réjouissant. Parce qu'on sort de soi-même et avec l'aide de Dieu on y arrive. Mettre cet homme au lit tous les jours, c'est partir à 9h, 9h30, rentrer à 11h, minuit parfois. Hein. Et une fois, je suis rentré 1h30 du matin, le dimanche, il fallait prêcher. Bon, ben, pratiquement, il fallait quand même pas que je me lève à 10h05. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué, c'est que quand la personne est au lit et qu'on prie, son regard est en paix. Ce chrétien arrête de se rebeller contre sa maladie, il arrête de souffrir comme un enfant déçu, de tomber malade, d'être diminué, et d'être chagrin. Il est dans la paix. Et puis vous voyez, son regard est tout autre, il est dans la paix. Et je me mets au-dessus, je croise son regard. Et on est contents tous les deux. J'ai oublié de ma fatigue du moment, de venir au soir, d'être allé coucher tard. Et lui, il a oublié sa maladie, il a tout oublié, il va dormir en paix. C'est le vécu quotidien. Quand Jésus a rencontré Marthe et Marie qui avaient perdu Lazare, et qui s'est rendu compte qu'il était arrivé en retard et que Lazare était mort, il a pleuré. Il a croisé le regard de Marthe et Marie et tous les amis de Lazare. Il a croisé, il était touché. C'est dans le vécu quotidien que Jésus vit les choses. Et nous, chrétiens, c'est dans les choses quotidiennes que nous vivons les choses. Pas dans la théorie, l'abstrait, ou le dimanche matin, pendant une heure ou deux. C'est ça qui compte. Et c'est un combat, ça. Et je me suis dit, à un moment donné, en voyant ce regard qui était en paix et qui s'endormait, je me suis dit, j'aurai mon tour. Qui mettra son regard au-dessus de moi et qui me fera ça? Et combien d'hommes sur la terre, au même moment, de femmes, d'enfants, de vieillards, sont en train de mourir à droite et gauche? Quels sont ceux qui ont un regard au-dessus d'eux, plein d'amour et de compassion? Je me rappelle à l'hôpital militaire où j'étais infirmier, il y avait des hommes de 50 ans, c'est souvent là, 50 à 55 ans, les cancers les plus foudroyants, les plus durs. Hein. Et des gens vraiment que les médecins faisaient tout pour les soigner, par moyen. Ils se traînaient dans le lit. Eh bien, tout se faisait dans le regard, les amis. Les regards que j'ai croisés là, j'ai soigné ces gens-là, je n'oublierai jamais ce regard. Pourquoi ? Parce que je pense que je vais les rencontrer au paradis, je vais les reconnaître. Oui. Parce que nous avons une communication entre les âmes. Ce n'est pas deux vaches qui se rencontrent dans le pré, les êtres humains. Ou deux trains qui se croisent sur les rails, un qui va à Bertry, l'autre à Virton. Non. Il y a quelque chose dans l'âme qui doit se passer, et qui est grand, qui vient de Dieu. Et c'est Jésus qui nous l'apprend, ça. Jésus nous apprend à avoir une âme vivante, une âme qui vit avec les autres, qui aime les autres, et qui supporte la difficulté, qui dépasse l'égoïsme personnel. Ce que je veux dire, c'est que Jésus nous fait dépasser l'amour de nous-mêmes, l'amour de notre chair, de nos vices, de nos paresses de tout reste, pour développer un autre amour, l'amour qui vient du Saint-Esprit, l'amour pour Dieu, l'amour pour les autres. C'est ça le vécu quotidien. Avec Jésus, on a aussi le statut d'ami. Ah ben, on n'a pas lu Jean 13, verset 18. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis. Il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Il a mangé avec beaucoup de gens. Et je ne pense pas que Jésus s'amusait à dire ça tous les jours. Il a dit une fois pour Judas qu'il a trahi. Il a mangé avec beaucoup de gens, des gens qui l'aimaient, des gens qui ne l'aimaient pas. Mais il a donné à tous la chance d'aller au ciel. Tous. Il était là pour eux, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et je pense qu'il connaissait le cœur de chacun, comme aujourd'hui il connaît le cœur de chacun de nous ici, Jésus. Mais parfaitement, hein, les amis. Il nous connaît. Et il dit, je te connais parce que je t'ai choisi. Quand vous êtes dans la solitude assez longtemps, ou alors il faut être rôdé beaucoup, même 10 minutes suffisent, est-ce que vous n'avez déjà pas reçu ce message de Dieu dans votre cœur? Je t'ai choisi, je te connais. Suis-moi, tu m'appartiens. Je n'ai jamais entendu, perçu ce message au fond du cœur. Je te connais, je t'ai choisi, suis-moi, viens, reste avec moi. C'est essentiel, les amis, parce que c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre à chacun. C'est du vécu quotidien, tous les jours. Dans Jean, chapitre 1, verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, donc de mensonge. Hein? D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Les amis, ce que je veux dire, c'est que Jésus est présent. Il a dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. » Jésus est présent, Jésus est vivant. Et ne vivez pas comme s'il n'était pas là. Ne pensez pas comme s'il n'était pas là. N'aimez pas les autres comme s'ils n'étaient pas là. Le point majeur de notre cœur, de notre esprit, c'est que Jésus est là. Et ça doit modifier tout dans l'appréciation des choses. Nous avons un statut d'ami pour Jésus. Jean, chapitre 15, un statut d'ami. Vous croyez que c'est si facile que ça d'avoir des amis sur la terre, des vrais amis? Eh, des amis d'un temps, oui, d'un certain temps, et puis après, crac, badaboum, même ceux qu'on croyait comme amis, paf, ça se retourne.